Mira, ahí va Alberto, ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte final. Como una moto,
Nibali, 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 gran dato.
Prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo.
Metri. Dietro si voltano, dietro si voltano.
Lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas. Mais Lenz sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouvel épisode du débrief by Dossard 13. On se retrouve après de longues semaines d'absence qui ont été marquées par plusieurs points, aussi bien dans le monde du vélo que de nos emplois du temps très chargés de nos côtés, mais pour discuter, on va dire, de tout ce qui s'est passé sur ce mois de septembre et ce mois d'octobre, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment tu vas aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va super. J'espère ne pas être trop rouillé. Bon, pas de débrief ces derniers mois. C'est pas que l'actualité manquait, mais bon, on n'avait pas trop à cœur de commenter ce qui se passait parce que c'était pas forcément notre vélo ou puis pas le temps. On a décidé de faire une petite pause. Et voilà. Content de te retrouver, mon Luca.
Non, mais comme dit, pas notre vélo, dans le sens où la Vuelta a été surtout marquée, comme beaucoup d'entre vous l'ont vu, je pense, par le triplé de la Jumbo-Visma, qui a un peu écrasé la course, dégoûté les adversaires, et t'avais l'impression qu'ils étaient ultra faciles comparés au reste du plateau qui était sur... c'était, on va dire, la course la plus relevée de la saison en termes de niveau, même par rapport au Tour de France ou au Giro. Et le triplé de la Jumbo semblait si facile que c'était déconcertant, dégoûtant et juste, c'était un trop après une saison qui était beaucoup trop marquée par la Jumbo.
Moi, je suis d'accord avec toi. On va tout de suite, comme tu aimes dire, rentrer dans le vif du sujet. On va débrief du Tour d'Espagne rapidement, mais ouais. Un peu dégoûté, et bon, je t'avoue que jusqu'à que l'ennemi perde son maillot rouge, après, j'ai plus trop suivi. Je voyais chaque jour les mêmes résultats qui tournaient en boucle. Et après, le point d'interrogation, ce sera toujours la Jumbo. Est-ce qu'un mec qui fait trois fois un grand tour dans la saison est censé être en forme sur le dernier grand tour comme ça? Je sais pas. Après, c'est quelqu'un que j'aime bien, Sepkus, mais là, j'avoue que je comprends pas. Après, dans son calendrier de course, il n'a fait que des grands tours. Presque, donc bon, peut-être que ça explique aussi une certaine fraîcheur, je sais pas, mais bref.
Tu as quand même parlé aussi de Filippo Ganna, parce que Ganna a montré qu'il était l'un des coureurs aussi à suivre, aussi bien sur les chronos, mais surtout sur les sprints massifs, et oui.
C'est vrai ça.
Il a montré qu'il était une bête de puissance, un peu à la Jonathan Milan, des sprints de 300 mètres en bourrin. Je pense que s'il est un peu plus entraîné en termes d'explosivité, en termes de... train, tout simplement. Par exemple, un Viviani en tant que poisson pilote, je pense que Ganna devient le meilleur sprinter du monde. Parce que, avec son nombre de watts assez fou, il fait trois belles secondes places, à chaque fois battu par plus fort, de mémoire, c'était Groves et Dainese. Et surtout, une belle dernière étape qui était totalement folle et assez rafraîchissante par rapport au Tour d'Espagne qu'on avait vécu, où on a vu un joli duel avec Groves et Evenepoel pour le maillot de meilleur sprinter, le maillot du classement par points. Et globalement, comme on l'a dit, Tour d'Espagne qui est passé un peu comme ci, comme ça. On pourra aussi noter par exemple la belle victoire totalement surprise aussi de Geoffroy Soupe, improbable.
Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais ça c'est la victoire d'une vie, c'est le genre de mec que tu vois coéquipier depuis 10 ans et qui a enfin son moment de gloire, et c'est ce qui nous réconforte avec le vélo, on va pas se mentir, en tout cas avec ce mois d'août.
On a aussi beaucoup parlé du mondial, le mondial qui a pour moi été un des plus beaux mondiaux de ces dernières années. Aussi bien pour les chronos que pour les épreuves en ligne. On a eu le droit à un joli circuit assez casse-pattes et qui a fait à chaque fois de très belles courses, notamment l'exploit de Axel Laurent chez les espoirs, la belle victoire de Julie Bégaud chez les féminines, chez les juniors, et même chez les hommes, chez les élites, on a eu le droit à une très belle course avec un joli numéro de Bettiol et un exploit de Mathieu Van Der Poel. Personnellement, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé le circuit, mais moi je l'ai adoré.
Ouais, particulier, ça a été rendu intéressant quand même par la pluie qui en plus a rendu le circuit quand même un poil dangereux, on va pas se mentir, même si c'est vrai que le circuit était, comment dire... Ah, ça m'a pas dérangé de suivre non plus, j'ai bien aimé, la course était intéressante. Il y avait des endroits où n'importe qui pouvait mettre une petite pichenette ou attaquer sur une relance, donc bon, je suis assez d'accord quand même avec toi, j'ai bien kiffé le regarder. Après, ça ne vaudra pas les titres de Julien, forcément. Mais voilà. Poggi 3ème et Voot éternel 2ème, ça s'arrête jamais, Luca. Le pauvre, ça me fait mal au cœur pour lui, parce que c'est sans doute l'un des plus grands coureurs de la décennie, mais est-ce que ça serait pas lui le plus malchanceux aussi de ces derniers temps?
Je suis pas sûr, parce que comme on dit toujours, la chance, ça se provoque. Et c'est juste que honnêtement, il tombe à chaque fois sur plus fort que lui. Et cette année, ça n'a pas non plus été le plus grand Woot de ces dernières années, quoi. Je pense notamment à sa saison 2021 de mémoire. Mais cette année, il a été encore une fois très très fort. Mais je trouvais qu'il était à chaque fois... Soit tactiquement il courait pas hyper bien, soit il est à chaque fois tombé sur meilleur que lui. Et difficile de faire mieux que ce qu'il a fait, quoi.
Bah moi, l'impression que j'ai, c'est que Woot, il était en forme toute la saison, mais il n'a jamais eu comment dire, ce plus haut de pic de forme comme Mathieu sur les mondiaux. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'il a toujours été là tout au long de la saison, mais peut-être qu'il lui a manqué vraiment le focus, être en forme moins longtemps, mais plus fort sur une petite période, je sais pas.
Mmh. Et puis malheureusement, le temps passe aussi pour lui. Hein. Le temps passe aussi pour lui et il va avoir 30 ans l'année prochaine. Donc j'espère pour lui qu'on n'est pas déjà sur le trop tard et qu'il n'aura pas trop de regrets à la fin de sa carrière. Quoi. Même si, bien sûr, il va finir sa carrière avec un palmarès XXL, mais avec les secondes places, les troisièmes places, les quatrièmes places qui se sont accumulées, j'espère que à la fin, bah, il manquera pas de superbes victoires et on le retiendra pas plus comme un outsider, enfin comme un éternel second. Donc à voir, à voir.
Oui. Et du coup, on enchaîne sur les championnats d'Europe où bah forcément Voot fait encore deuxième, mais surtout masterclass de Christophe Laporte. Franchement, là, c'était le vélo que j'aime. Alors, j'étais devant la course. J'avoue que j'ai vibré. J'avoue que pendant longtemps, je me disais, ah bah en fait, c'est cuit. Christophe, c'est cuit. Et putain, l'ascension finale, je la voyais sans fin. Je vois Voot revenir comme une balle. Et pile quand on voit le plateau des derniers 100 mètres, bah ça avance plus. Et Laporte, il remporte. Alors là, j'ai hurlé. Franchement, j'étais très heureux. Donc voilà, Laporte champion d'Europe.
Merci Voot. Hein.
Ouais, on va dire ça, Luca. Voot deuxième et troisième, Olaf Koy. Alors c'est les championnats d'Europe, ça se court par nation, hein, mais encore un triplé de Jumbo. Est-ce que c'est pas fou, Luca?
Ah si, c'est fou. Hein. Moi, je sais plus quoi dire avec eux.
Ouais. Voilà, j'en rajouterai pas plus. Hein. Mais j'ai bien vibré devant cette course. On a failli assister d'ailleurs. Je pense que toi, t'avais pas pu regarder la course, mais on avait failli assister à une masterclass de l'Italie. J'ai quitté mon ordi une minute. Il n'y avait plus d'Italien. Je crois qu'il y a eu une histoire de chute ou quoi. Assez triste parce que l'équipe d'Italie avait une équipe XXL aussi.
Je sais plus ce que je faisais ce jour-là, mais je crois que je me suis peut-être endormi devant la course. Mais j'ai souvenir seulement de la belle victoire offerte par Wout van Aert, quoi.
Oui, oui, Luca. Allez, j'entends pas les rageux. Je te laisse passer à un autre point.
Très bien. J'ai envie de m'attarder un peu sur Arnaud Daly. Comme d'habitude, on est toujours là, les premiers l'encensés de notre côté. Je sais que toi, de ton côté, tu voulais mettre en avant le Grand Prix du Québec qu'il a gagné avec une facilité assez déconcertante. Ça se voit qu'en termes de puissance, sur des petits punchs ou des sprints même longs, il est totalement hallucinant en termes de puissance. Il a été aussi pas mal malchanceux. Il a notamment dans les derniers sprints qu'il a fait, il a déraillé, il a cassé sa pédale. Mais globalement, il a montré encore une fois qu'il était là quand il le fallait, qu'il était là pour marquer des points pour l'auto. C'est sa deuxième saison. Il doit être à plus de 15 victoires déjà en carrière. Et bah, tout simplement, on a hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine en tant que sprinter unique de son équipe avec le départ de Caleb Ewan du côté de Jayco. Non, ça va être fort intéressant de voir ce qu'il va faire sur ses premiers grands tours, sur les classiques flandriennes. Il a encore une marge de progression assez folle, même sur un Milan-San Remo qu'on prévoyait déjà cette année en tant que potentiel favori. Mais globalement, il montre de très belles choses et je pense que avec de la caisse en plus qu'il a accumulé cette année, l'année prochaine, il peut être assez monstrueux.
Ouais, tu parlais qu'il cassait sa pédale, mais n'oublions pas qu'il casse sa pédale à 50 mètres de la ligne, mais qu'il gagne quand même. C'est assez déconcertant pour ses adversaires, j'avoue que j'aurais un petit peu... Mon ego n'aurait pris un coup. Donc moi, j'ai hâte de le voir en 2024. Comme tu l'as dit, il a vraiment une marge de progression quand même assez bonne. Je pense qu'il peut aussi être mieux entouré, parce que du côté de la Lotto...
Non, il a une équipe d'enfoirés quand même. La Lotto, cette année, c'est quand même assez fou. Hein. La Lotto, actuellement, ils font une saison assez folle et ils ont largement la place pour le World Tour.
Ouais, c'est peut-être juste moi qui ai un peu moins suivi l'actualité de la Lotto et qui ai eu l'impression qu'on en parlait moins. Mais Paris-Roubaix, c'est pour lui l'an prochain, quoi. Est-ce qu'on passerait pas à la Bretagne classique, très rapidement ? Bretagne classique, tous nos Français ont brillé, notamment Madouas qui remporte la course qu'il voulait toujours gagner. Et en plus avec le maillot bleu-blanc-rouge, franchement, masterclass de Madouas. J'aimerais bien le voir plus avec, avec plus de responsabilités chez FDJ, même s'il en a déjà beaucoup, je pense que c'est un coureur qui pourrait être encore mis plus en avant. Et on va quand même noter la seconde place de Mathieu Burgodeau, qui est toujours discret, mais toujours présent dans les bons coups. Et on ne demande qu'à en voir plus, en fait, parce que depuis 2 ans, c'est une belle promesse pour Total Energy. Et certes, il a déjà gagné de belles courses, mais moi, je pense qu'il pourrait en gagner des encore plus belles. Donc, c'est un coureur sur lequel je vais avoir beaucoup d'attentes en 2024, en espérant qu'il soit épargné par les chutes.
Non, Madouas, ça va être très intéressant de le voir dans l'optique des JO de l'année prochaine, parce que pour moi, ça peut être typiquement le leader de l'équipe de France, parce qu'il a montré depuis maintenant 2 saisons, 2 voire 3 même saisons, qu'il était là sur les grandes classiques. Il lui manque peut-être un petit truc pour passer au statut des Wout Van Aert et compagnie sur les classiques, mais typiquement, quand on repense à cette saison 2023, quand il remporte la Bretagne classique, il enchaîne avec des belles classiques au Canada. Un peu plus tôt dans la saison, il a été ultra présent aussi sur les Ardennaises, où il fait 5e de Liège et des petits top 10 sur les classiques flandriennes. L'année dernière, il fait podium sur le Tour des Flandres. Que je dise pas de bêtises, même en début de saison, il finit 2e d'Estrade Bianche. Donc non, globalement, Valentin Madouas, cette année, il a encore passé un nouveau cap en tant que... top coureur mondial sur les classiques. Il lui manque peut-être un chouïa pour être à chaque fois parmi les grands favoris, mais il est encore jeune. L'année prochaine, il va sur ses 28 ans. Donc non, comme dit, il a commencé à avoir pas mal d'expérience et maintenant, on attend qu'il en remporte une grosse, une belle. En parlant de monument, on va enchaîner sur le Tour de Lombardie.
Ouais, Lucas, c'est les émotions, hein. C'est les émotions pour Monsieur Pinot. Bonne retraite, l'artiste. On ne doute pas qu'il sera plus heureux loin des caméras, loin du monde pro, avec ses animaux. Mais voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, hein. Les images parlent d'elles-mêmes sur les réseaux. C'était assez les émotions comme ça. Il n'a pas pu peser sur la course, mais il a pu kiffer la courbe à Pinot. Hein, je pourrais faire un monologue sur Pinot parce que tout le monde l'aime, on est nombreux à l'aimer. On en parlera très longtemps de Monsieur Pinot, voilà.
Et en parlant aussi d'un autre Français, cette fois-ci plus des côtés des sprinteurs, mais qui ne prend pas sa retraite, lui.
Un autre Français, ouais, on retrouve Arnaud Démare qui renoue avec la victoire avec sa nouvelle équipe. Il remporte le Tour de Vendée et Paris-Bourges. Prometteur pour l'année prochaine. On ne doute pas que mentalement, Arnaud sera beaucoup mieux. Après, voilà, ça me fout un coup de vieux dire ça, hein, mais... Mais les années passent et puis Arnaud, il a... Putain, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Arnaud, il a 33 ans. Enfin non, il aura 33 ans l'an prochain, pardon. Là, il a 32 ans, non, le vieux, ils sont pas. Il a encore de belles capacités physiques. Il peut encore remporter de très belles courses, surtout chez Arkea, chez qui il pourrait faire beaucoup de bien. Donc Donc hâte de voir en 2024, il est encore... On sait que les sprinteurs, un peu du profil d'Arnaud, où généralement, c'est un assez bon cru, quoi. Passer la trentaine, c'est des coureurs qui restent assez puissants, endurants, qui peuvent aller chercher de belles courses, de belles échappées. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire l'an prochain.
Non, et puis surtout, ça a été le bon move aussi de la part d'Arkea de le faire signer dès le 1er août. Parce qu'on sait que Arkea est en grande difficulté cette année, aussi bien sur les résultats sportifs et surtout en prévision du maintien en World Tour dans deux saisons. Et le fait de le signer dès le mois d'août de cette année, ça a permis de récolter des points précieux pour le maintien. Donc non, ça a été un move très intelligent de la part d'Emmanuel Hubert. Pour finir sur l'aspect sportif, avant de passer au mercato, focus forcément sur Riley Sheehan qui a été l'un de mes coups de cœur de cette fin de saison. Il aurait fallu être patient sur cette deuxième partie de saison pour me faire vibrer à nouveau, mais le coureur et stagiaire américain de la formation Israël a réussi à me faire hurler sur Paris Tour. Sa victoire tout simplement sensationnelle, quoi, pour un stagiaire de gagner Paris Tour, parce qu'on parle quand même d'une classique qui pourrait être quasiment un monument, on va dire, si on l'élargissait. Mais globalement, c'est une des plus belles classiques Pro Series à remporter. Et c'est un stagiaire qui l'a fait, quoi. Et ça montre encore une fois qu'avec du talent et de l'audace, on peut réussir à faire de belles choses. Et ça va surtout être intéressant de savoir où est-ce qu'il va aller l'année prochaine. Parce que là même, par exemple, au moment où on enregistre ce matin, il y a eu le Critérium de la Japan Cup où il termine deuxième. Encore une fois, il va encore enchaîner un podium. Et ce monsieur n'a pas de contrat pour l'année prochaine en pro team. Il va être dans une petite équipe américaine. Donc non, j'ai hâte de voir qui c'est qui va mettre un petit billet sur ce talent et se dire pourquoi pas voir les choses en grand, tout simplement. On a parlé juste avant de la retraite de Thibaut Pinot, mais il n'y a pas que lui qui tire sa révérence, on va dire, du peloton. Parmi les grands noms, on peut citer Greg Van Avermaet, ancien champion olympique, qui termine sur Paris Tour, un peu aussi pas dans l'anonymat, mais on va dire, ça a été un très grand champion et fin de carrière pour lui. Fin de carrière également pour Peter Sagan, qui lui, par contre, sort dans l'anonymat. C'est assez triste parce que c'est l'un des plus grands champions de ce sport. Il a redonné vraiment du panache à un cyclisme qu'on connaît désormais, mais qui avait beaucoup de mal dans les années 2000, qui était très sombre. Et lui, quand il est arrivé chez Liquigas, il a fait tout de suite le spectacle et il a rendu le cyclisme amusant. Ce sport qui est quand même, on va dire, de base chiant, et lui il a réussi à donner du spectacle, du vélo spectacle, et on le remerciera jamais assez pour ce qu'il a fait. Malheureusement il part sur de mauvaises notes suite à des déclarations et des comportements qui sont ce qu'ils sont, quoi. Mais sportivement, ça a été l'une des rockstars tout simplement du peloton, quoi.
L'un des sauveurs des grandes et horribles années Froome. Clairement, on va pas se mentir.
Et parmi les autres départs, on peut citer aussi Annemiek van Vleuten, qui est l'ogresse du cyclisme féminin. Une ogresse moderne qui part également à la retraite après avoir tout gagné. Et parmi les Frenchies qui tirent leur révérence aussi, on peut penser à Nasser Bouhanni et Tony Galopin.
Tout à fait. Est-ce que sur ça, on passerait pas un petit passage sur le mercato ?
Allez, on peut.
Alors moi, je vais être très clair dès le début. Je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il n'y aura pas de fusion de Jumbo Quickstep. Remco a annoncé qu'il resterait une année de plus du coup avec l'équipe belge, mais on va pas se mentir non plus. Ça sent pas bon. Si Pat Lefebvre ne trouve pas les sponsors ou quoi, en vrai, je me suis pas non plus plongé dans la situation tellement c'est le bordel ces deux, trois dernières semaines, mais... Mais pour l'instant, je suis quand même heureux qu'il n'y ait pas de fusion entre ces deux équipes. Déjà, voir Quickstep partir, ça serait un pincement au cœur, tellement cette équipe est emblématique. Mais si c'est pour finir avec... c'est même pas Jumbo, il faut dire Visma, du coup. Ça aurait été terrible.
Oui et non, moi je trouve qu'on en a fait beaucoup pour pas grand chose, tout simplement, dans le sens où déjà de base c'était pas vraiment une fusion parce que 95% de l'effectif de Jumbo n'aurait pas bougé. Si on va dire si fusion il y avait eu, il y aurait eu 3 ou 4 coureurs de la Cupstep qui seraient arrivés, le staff ne serait pas arrivé, ça serait juste typiquement un peu comme ce qu'avait fait BMC CCC à l'époque. Non, mais dans le sens où on en a fait des caisses pour pas grand-chose, parce que limite la Jumbo se serait appauvrie, et puis même, on va dire, ça aurait été trop compliqué pour les deux équipes réserves aussi, pour les deux équipes féminines, donc on savait que limite ça n'aurait pas pu se faire, et puis si même si ça s'était fait, limite Jumbo en serait sorti affaibli, donc en fait tout le monde aurait été gagnant, quoi. Parce que typiquement Remco il serait parti sûrement chez Ineos avec Spe. Donc non, globalement je trouve que on en a fait beaucoup pour pas grand-chose. C'est honnêtement Jumbo avait déjà un bon effectif bouclé quasiment de 27 ou 28 coureurs. Donc techniquement ils auraient pu en accepter 3. Même si par exemple Roglic est parti par la suite, on aurait pu encore virer Esman. Mais globalement Ah, comme dit, honnêtement, Jumbo est déjà la meilleure équipe du monde. Enfin, en termes de fusion, ils auraient récupéré limite personne d'assez fort pour leur 8, quoi. Après, c'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue, mais honnêtement.
Oui, c'est ton point de vue. Moi, je vais pas plus te commenter parce que j'étais pas plus informé, mais bon, si chez du côté Quickstep, il y en a que 4 qui gardent un job, ça craint quand même, quoi.
Ouais, bah on remerciera. C'est même pas le fait vert qu'il faut remercier, hein. C'est deux Colef, hein. C'est le propriétaire de la licence, hein, parce que limite le fait vert, pour une fois, il a bien fermé sa gueule, donc.
J'avoue que lui qui a d'habitude une grande gueule, on l'a pas trop entendu. Un petit peu, mais pas trop.
Et du coup, pour rebondir là-dessus, forcément, on va parler de Roglic. Roglic et Labora. Labora silencieusement fait un mercato très réfléchi. Après avoir signé Daniel Felipe Martinez, il signe Primoz Roglic. Donc la fusion n'aura pas eu lieu finalement entre Quickstep et Jumbo. Jumbo en ressort quand même affaibli en perdant l'un de ses leaders qui a très mal digéré sa défaite, on va dire, sur la Vuelta au profit de Kuss. Mais globalement, Roglic en tant que leader sur le tour l'année prochaine, avec un Bourman, Karma, Udo Brooks, Martinez et Vlasov, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Attention au bon Primoz.
Oui, ça a de la gueule. Ouais, puis moi je trouve, franchement, il pouvait pas espérer meilleure équipe. Je trouve que c'est un coureur qui colle bien à l'équipe et ça va être super intéressant de le suivre.
Et puis j'espère qu'il aura le petit casque Red Bull. Parce que normalement, dans le mercato, enfin dans sa nouvelle équipe, le salaire de 5 millions annuels est payé par Red Bull. Donc, techniquement, il aura le petit casque comme Wout Van Aert.
Le petit casque qui te fait gagner plus 3 en forme. Lucas, je ne peux plus attendre, il faut quand même l'annoncer très vite. La prolongation de Mark Cavendish pour un an supplémentaire. Bah écoute, je suis heureux, hein. Maintenant je m'attends plus à rien et bon, s'il tape le record, tant mieux. J'espère juste que ça signera pas encore sur une chute. L'an dernier, j'avais déjà peur que ce soit l'année de trop et au final, bah il remporte brillamment la dernière étape du Giro. Et en plus, il passe bien, il a passé les montagnes sans encombre. Donc bah c'est que du bonus et moi ça m'évite une déprime de fin de saison où Pinot et Cavendish auraient pris leur retraite en même temps, tu vois. Donc là, je suis un homme heureux. Je serai malheureux l'an prochain. Du coup, mon malheur, ma dépression est repoussée à l'année prochaine, donc on prend.
Et on va finir sur une petite note également mercato. Je crois qu'on en avait déjà discuté un peu dans les derniers épisodes. C'est toujours l'interrogation qu'on a autour d'AG2R Citroën, hein, dans le sens où Citroën du coup ne prolongera pas l'aventure l'année prochaine dans le vélo. AG2R est toujours à la recherche d'un co-sponsor. On discutait à l'époque de surtout que Decathlon normalement devrait arriver dans l'aventure avec du coup le textile et les vélos Van Rysel. Le problème, c'est que pour l'instant rien n'a été officiel, rien n'a été signé officiellement. Le mercato, on a entendu les rumeurs de Sam Bennett et de Victor Lafay parmi les recrues, rien n'a été signé officiellement. Que je dise pas de bêtises, la réserve qui dont fera partie Léo Bizieux, le crack des juniors français, bah pour l'instant ils sont que deux avec Arthur Blaise. Donc non, ça fait peur. On est mi-octobre, pour l'instant il y a encore rien qui est bouclé entre Groupama qui fait un mercato dégueulasse, Cofidis qui recrute n'importe qui, AG2R qui au final n'a pas de co-sponsor pour l'année prochaine. Il y a de quoi s'inquiéter.
J'ai bien aimé ta parenthèse sur Cofidis. Ouais, il y a de quoi s'inquiéter. C'est vrai qu'à G2R, pas très actif, on n'a pas trop de nouvelles, ça fait peur, parce que c'est une équipe emblématique aussi. Et le vélo, le monde du vélo actuellement, c'est compliqué, hein, à un niveau. Alors forcément, il y a quelques équipes qui dominent avec beaucoup d'argent, mais derrière, il y a des équipes avec moins d'argent et de moins en moins, donc ça fait un peu peur. Parce qu'à G2R, c'est compliqué quand même. Sur le sportif, certes, ils font un beau Tour de France, mais depuis le Tour de France. Moi, bon, il voit plus trop, hein. Je vois la progression encore de Clément Berthet qui fait des bonnes places, mais pour AG2R, c'est insuffisant et on n'a pas de bonnes nouvelles pour l'instant, que ce soit sur le mercato ou au niveau des sponsors.
Voilà, c'est sur ces doux mots que nous arrêtons aujourd'hui pour ce 9e épisode du débrief. On va essayer de revenir vers vous prochainement pour débriefer par rapport à nos one to watch et faire un peu un épisode mercato. Merci de nous avoir écoutés, tout simplement. Passez une très bonne journée et on espère à bientôt. Allez, ciao ciao.
Ciao.